Et voilà notre rendez-vous mensuel pour la dignité, cette émission pour les droits humains pour Amnesty International avec Régis Coulanges, responsable formation d'Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour. Bonjour à tous et bonne année. Voilà, alors aujourd'hui, les motifs d'inquiétude concernant les droits humains sont nombreux, je voudrais commencer d'abord par célébrer un peu les victoires que nous avons remportées en 2022. Parce qu'il y en a eu. Hein. Des personnes injustement détenues ont été libérées. Des auteurs de violations des droits humains ont dû rendre des comptes. La lutte contre l'abolition de la peine de mort a progressé. Pour lutter contre les injustices, c'est ensemble que nous avons le plus de pouvoir. La preuve, ces victoires remportées en 2022, face à la morosité ambiante et au flot de mauvaises nouvelles qui nous inondent, elles méritent d'être célébrées. Tout au long de l'année, grâce à notre travail de campagne, plaidoyer, sensibilisation et à votre mobilisation, nous avons contribué à changer des vies, changer des lois. Partout dans le monde, nous avons aidé des personnes à obtenir justice et réussi à améliorer la situation de personnes dont les droits humains étaient bafoués. Tour d'horizon des victoires à célébrer, obtenues en 2022 en matière de droits humains. En Afghanistan, le professeur Fezullah Jalal, maître de conférence à l'université, a été libéré en janvier après avoir été arrêté, détenu arbitrairement par les talibans. Rami Chat, le militant égypto-palestinien, a vécu l'année 2022 en homme libre. Ce célèbre opposant politique et défenseur des droits humains en Égypte a été arrêté arbitrairement et détenu dans son pays pendant 2 ans et demi. Dès sa libération en janvier 2022, il a remercié toutes les personnes qui se sont mobilisées pour lui. Chacun de vos mots, chacune de vos lettres m'ont énormément apporté, moralement, mais aussi politiquement. Les autorités ne pouvaient pas ignorer que le monde les regardait. Le combat continue aujourd'hui pour tous les opposants injustement emprisonnés en Égypte. Au Soudan du Sud, Magaï Mathiop Nong a échappé à la peine de mort. Il avait été condamné à la peine capitale à l'âge de 15 ans en 2017. Plus de 700 000 actions ont été menées dans le monde entier en sa faveur lors de notre grande campagne des 10 jours pour signer de 2019. Il a finalement été libéré en mars dernier. Au Guatemala, Bernardo Calxol, défenseur maya des droits des populations autochtones et de l'environnement, a été incarcéré pour des accusations forgées de toutes pièces en lien avec ses activités militantes. Plus d'un demi-million d'actions ont été menées en faveur de la libération de ce prisonnier d'opinion dans le cadre de notre campagne 10 jours pour signer de 2021. Une mobilisation payante, Bernardo a été libéré en mars dernier. En Russie, l'artiste Yulia Tsevkova risquait jusqu'à 6 ans de prison pour de simples dessins de corps de femmes et de vulves sur les réseaux sociaux. Grâce à une large mobilisation, l'artiste russe de 29 ans a finalement été acquitté en novembre dernier, une décision d'autant plus réjouissante qu'elle est un exemple rare de justice dans la Russie actuelle, qui a par ailleurs approuvé le 24 novembre dernier une loi durcissant l'interdiction de la propagande LGBTI. En Turquie, l'annulation de la condamnation de 4 défenseurs des droits humains en procès depuis 2017 a été un immense soulagement. Parmi eux, Tanek Kilic, président honoraire d'Amnesty Turquie, et Idil Eser, ex-directrice d'Amnesty Turquie. Tous deux membres fondateurs d'Amnesty International Turquie, ils jouent depuis 20 ans un rôle crucial dans la défense des droits humains dans leur pays. 5 ans après leur emprisonnement, ce jugement met fin à une parodie de justice et révèle l'objectif à caractère politique de ces poursuites. Se servir des tribunaux comme d'une arme pour faire taire les voix critiques. Cette bonne nouvelle ne nous fait pas oublier les nombreux défenseurs des droits humains qui croupissent en prison, vivent dans la crainte d'être arrêtés ou font l'objet de poursuites infondées en Turquie. En janvier, un tribunal allemand a condamné Anwar Raslan, ancien responsable des services de renseignement syriens, à la réclusion perpétuelle pour crimes contre l'humanité. Il a notamment été reconnu coupable de torture, meurtre et viol de détenus dans la branche 251, un centre de détention géré par le renseignement militaire à Damas. Un verdict historique et une victoire pour les familles des victimes de ce bourreau. Un autre auteur de violation des droits humains, a dû rendre des comptes. En juin, un tribunal a enfin rendu justice partielle pour le meurtre en 2016 de Berta Cáceres, défenseur des droits de l'environnement et des populations autochtones. David Castillo a été condamné à une peine de prison en tant que co-auteur de son assassinat. Nous continuons à nous mobiliser pour que les autres responsables du meurtre de Berta Cáceres soient traduits en justice. En novembre, le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis a informé le gouvernement israélien qu'il mènerait une enquête sur l'homicide, en mai, de la journaliste palestino-américaine Shireh Abu Akleh par un soldat israélien. Autre bonne nouvelle, la lutte pour l'abolition mondiale de la peine de mort a continué à progresser. C'est un combat qui est historique chez Amnesty International. En 2022, il a connu de nouveaux succès. Toute une série de pays y a aboli ce châtiment ou pris des mesures significatives dans cette voie. L'abolition de la peine de mort pour tous les crimes est entrée en vigueur au Kazakhstan en janvier. La Papouasie-Nouvelle-Guinée lui a emboîté le pas en avril, abrogeant ce châtiment 30 ans après sa réintroduction. Puis la République centrafricaine en juin, la Guinée équatoriale en septembre et la Zambie en décembre. La tendance vers l'abolition universelle de la peine de mort se confirme. 143 pays ont aboli la peine en droit ou en pratique. Des pays restent encore à convaincre. Le combat continue. Nous allons maintenant faire une pause musicale en écoutant la symphonie confinée, La tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et sans trop.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.
Non, 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 il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment.
Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant.
Vraiment, vraiment, vraiment.
Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester
des semaines sans rien faire,
eh bien on s'y fait.
Mais vivre sans tendresse,
le temps paraît long.
Long, 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 long.
Le temps vous paraît long.
Felice.
Se marcia la tristezza al verlo así vivir, ay Dios,
Dios mío,
mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le roi sans cesse.
Voilà, alors nous allons continuer à célébrer nos victoires de 2022. En effet, des avancées importantes ont été remportées pour les droits des femmes et des personnes LGBTI, et des lois et des résolutions essentielles ont été adoptées. En 2022, nous avons contribué à certaines victoires notables. La marée verte se poursuit en Amérique latine. En Colombie, l'avortement a été dépénalisé jusqu'à la 24e semaine de grossesse. Cette nouvelle fait suite à la légalisation de l'avortement en Argentine en 2020 et à cette dépénalisation au Mexique en 2021. En Espagne, un rapport sexuel sans consentement constitue désormais un viol. En Finlande, le Parlement a pris des mesures allant dans le même sens, avec des réformes qui font de l'absence de consentement un élément clé pour définir le viol. La Finlande a aussi adopté des réformes en octobre qui ont assoupli les lois très strictes sur l'avortement dans les régions nordiques. En Suisse, le mariage des couples de même sexe est enfin devenu légal. Près des deux tiers de la population a voté oui lors d'un référendum. La Slovénie a suivi le mouvement en octobre, légalisant le mariage homosexuel après un arrêt de la Cour constitutionnelle. De même que Cuba, qui par référendum a adopté un nouveau code des familles qui ouvre le mariage et l'adoption à toutes les personnes. Des lois et des résolutions essentielles ont été adoptées par des gouvernements. Le travail d'Amnesty International a contribué à l'adoption des lois et de résolutions essentielles, mais aussi à ce que les entreprises prennent plus au sérieux leurs obligations en termes de droits humains et soient amenées à rendre des comptes. En Inde, la Cour suprême a remporté une victoire pour la protection et la promotion du droit à la liberté d'expression en suspendant la loi relative à la sédition datant de 152 ans. Aux États-Unis, une loi sur les violences par armes à feu, pour laquelle Amnesty International, États-Unis et ses partenaires faisaient campagne depuis longtemps, a été adoptée. Au Sahel, notre travail de plaidoyer pour protéger les enfants dans les zones de conflit du Niger s'est traduit par un renforcement de la surveillance de la situation par l'ONU. En juillet, le secrétaire général de l'ONU a demandé à sa représentante spéciale de promouvoir une capacité de surveillance renforcée dans la région du Sahel central, qui couvrirait la région trifrontalière du Niger, l'une des principales recommandations de notre rapport paru en septembre 2021. À notre demande, les autorités de Sierra Leone ont invité la société minière Meya, qui déploie ses activités dans le district de Kono, à répondre à nos préoccupations quant à l'impact négatif de ses activités sur les populations locales. La société a répondu qu'elle était engagée dans diverses actions visant à améliorer la sécurité des populations et l'accès à l'eau potable pour les habitants. Au Myanmar, grâce à notre enquête établissant un lien entre la chaîne d'approvisionnement en carburant d'aviation et les crimes de guerre commis par l'armée, plusieurs entreprises ont annoncé leur retrait des ventes de kérosène à ce pays. L'Union européenne est parvenue à un accord politique sur la loi sur les services numériques. Ce cadre réglementaire historique obligera, entre autres, les plateformes des géants technologiques à évaluer et gérer les risques systémiques posés par leurs services, tels que l'incitation à la haine et la diffusion de fausses informations. Des progrès notables ont également été enregistrés en matière de justice environnementale. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur la reconnaissance universelle du droit à un environnement sain. Voilà pour ces victoires et en 2023, bien sûr, le combat continue. Nous allons maintenant écouter une chanson sur les droits des femmes, justement, une magnifique chanson d'Anne Sylvestre, chantée par Laetitia Isambert et Nathalie Doumar.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour.
Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous y morcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi,
celle qui parle ou qui se tait,
celle qui pleure ou qui est gaie,
c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot,
fille de vague ou de ruisseau, et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue,
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas.
Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante.
Forte, vous me combattiez.
Faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimé putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi.
Et si l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui sait d'où se défend,
c'est Gabrielle ou bien Eva,
fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur
ou bien le leur, celle qui est dans son printemps,
celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou bien la belle,
fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère
ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Extraordinaire chanson. Voilà, alors maintenant nous allons parler de Salah Hamouri. Si vous pensez qu'il faut avoir été déclaré coupable pour aller en prison, cette histoire va vous convaincre du contraire. Cette histoire, c'est celle de Salah Hamouri, un avocat franco-palestinien qui travaille pour Adamer, une ONG de défense des prisonniers politiques palestiniens. Depuis 20 ans, les autorités israéliennes le harcèlent. Sa première arrestation, il l'a vécue à tout juste 16 ans. À 37 ans, il a déjà été arrêté 6 fois et a passé des années en détention sans aucune preuve. Nous allons écouter maintenant un reportage sur lui, où on entend notamment sa femme.
Moi, je m'appelle Salah Hamouri, franco-palestinien, 33 ans. J'ai passé presque 9 ans dans les prisons israéliennes.
Salah Hamouri, prisonnier en Israël depuis le 23 août dernier. On lui reproche d'appartenir à une organisation interdite dans ce pays. Sa famille, qui vit en région parisienne, dénonce une arrestation arbitraire.
C'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile. Bien sûr que c'est pas ce que j'aurais souhaité pour mes enfants. Mais je veux qu'ils sachent que leur père, il s'est battu. Salah Hamouri est un avocat, il est franco-palestinien, sa maman est française et son papa est palestinien. Il est défenseur des droits humains, il travaille pour une ONG qui s'appelle Adamir, qui défend les prisonniers politiques palestiniens pour faire connaître leurs conditions de détention, faire connaître leurs souffrances, qu'elles soient physiques, psychologiques. Et enfin, il est attaché à la libération de son peuple. Et il est lui-même prisonnier politique palestinien, actuellement en détention administrative sans charge du jugement. Ce n'est pas la première fois qu'il est détenu. Il a passé plus de 9 ans derrière les barreaux depuis qu'il a 16 ans. La première fois que Salah a eu, on va dire, affaire aux autorités israéliennes, c'était pendant la seconde intifada. Lui, il était un jeune, il participait aux manifestations qui était organisé. Il a reçu une balle dans la jambe, qu'il a toujours d'ailleurs dans la jambe. Ensuite, alors qu'il était encore étudiant, il avait été arrêté et accusé d'avoir distribué des tracts. Donc il avait été mis en détention plusieurs mois pour ça. Et une nouvelle fois, toujours au cours de ses études, il avait été arrêté, mis en détention administrative, donc quelques mois, sans charge ni jugement, donc il n'y avait pas de motif à son incarcération. Et bien, en mars 2005, il était en voiture, il passait un checkpoint, et là, il a été de nouveau arrêté, et cette fois-ci, il a été inculpé. Les autorités israéliennes lui reprochaient d'avoir eu l'intention d'organiser l'assassinat d'un homme politique d'extrême droite israélien suite à des dénonciations qui ont été faites lors d'interrogatoires violents. Et jamais au tribunal, personne ne s'est présenté pour redire ce qu'ils avaient avoué lors de leurs interrogatoires violents. Lui a toujours nié ces faits. Aucune preuve n'a jamais été fournie. À cette époque-là, Salah, il a plaidé coupable. C'est quelque chose qu'en France, on peut avoir du mal à comprendre parce qu'on n'a pas ce système. Le plaider coupable en Palestine est utilisé pour faire un marchandage de peine, en fait. Et en l'occurrence, là, c'était s'il plaidait coupable, il était incarcéré 7 ans, et s'il plaidait non coupable, il était incarcéré le double. Le choix, il est vite fait, d'autant plus que c'est 99,6% des peines requises par le procureur contre des Palestiniens sont appliquées. Voilà, à l'époque, il est condamné à 7 ans de prison. Donc sa maman, Denise, qui est française, elle contacte à l'époque Jean-Claude Lefort, qui est mon papa et qui était président de l'association France-Palestine Solidarité. Il était aussi député. Il disait, voilà, il faut que la France défende ce citoyen qui est arbitrairement incarcéré. Et voilà, donc je faisais partie de ce comité de soutien. La France faisait rien. Donc elle s'est dit, tournons-nous vers la société civile pour faire grandir une mobilisation et faire connaître aussi le cas de son fils. Donc il a passé 7 ans en détention. Et il a été libéré le 18 décembre 2011.
La mère et la sœur de Salah ont du mal à contenir leur émotion.
On était contents de pouvoir le voir, de le toucher, parce que ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bon, en même temps, on a eu des larmes, hein, parce que c'est normal, c'est très émotionnel aussi. Voilà.
Il décide de changer de cursus universitaire et de faire des études de droit, puisqu'il veut devenir lui-même avocat. Et Salah, il est venu en France à partir du mois d'avril pour remercier, rencontrer les personnes, les militants, mais aussi les élus. Il y a des municipalités qui l'avaient fait citoyen d'honneur.
Je suis là pour le remercier, pour faire leur connaissance, d'être avec eux. Parce que moi, je savais qu'il existait un grand soutien ici. Alors, je suis là pour connaître les gens du près, de les remercier et surtout de témoigner les ans d'emprisonnement et la souffrance des prisonniers politiques.
C'est à ce moment-là qu'on a fait connaissance, voilà. Il y a eu 2 ans entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où, effectivement, j'ai décidé d'aller vivre à Jérusalem. On s'est mariés à Jérusalem et on habitait ensemble. Et à l'époque, j'étais enceinte et je me suis dit que c'était l'occasion, puisque ça faisait 2 ans que j'étais pas sortie du territoire, de venir passer quelques jours en France. C'est à mon retour à l'aéroport de Tel Aviv le 5 janvier 2016, j'ai été arrêtée. Et au début, donc ils ont pris mon visa, ils ont mis des tampons, il y avait écrit « denied ». Voilà, c'était aussi simple que ça. En me disant on vous accuse d'immigration illégale. Ça, c'était la première excuse. Après, on m'a dit que j'étais un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Voilà. Donc, on m'a conduit en détention 3 jours. Et au bout de 3 jours, on m'a mis dans un avion pour rentrer en France. La détention en elle-même n'était pas agréable, parce que d'autant plus, j'étais enceinte. On me refusait l'accès à mes médicaments, la nourriture n'était pas adaptée. Enfin, mais bon, c'était 3 jours et quand on est marié avec quelqu'un qu'à l'époque il avait fait plus de 8 ans de détention, qu'on rencontre des Palestiniens qui ont fait des années de détention, 3 jours, c'est rien du tout. Mais c'est pas la détention en elle-même qui était difficile, c'était les conséquences de cette détention. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai compris que j'allais pas pouvoir rentrer en Palestine. Ça, c'était la première chose. Que mon fils n'allait pas pouvoir naître à Jérusalem, et donc il pouvait pas bénéficier de ce statut de Palestinien de Jérusalem, puisque c'est un statut qu'on n'obtient pas par filiation. Il faut être sur place. Surtout. Je réalisais que, aussi bien moi, mais cet enfant à naître, on était utilisés pour faire pression sur mon mari. C'est-à-dire, ben maintenant, voilà, ta femme et ton fils, ils sont en France. À toi de faire un choix, quoi. Nous, idéalement, on aimerait vivre en famille à Jérusalem. C'est ce qu'on souhaitait faire avant de créer une famille. C'est notre droit. Salah est palestinien de Jérusalem, donc... Sa femme et ses enfants ont le droit de vivre avec lui à Jérusalem. Si Salah se pliait à leur chantage odieux, c'est une victoire pour eux, parce qu'il perdrait son titre de résident à Jérusalem et puis il ne pourrait plus jamais remettre les pieds, même pour aller voir sa famille. Il choisit de rester vivre là-bas et je le soutiens dans son choix, parce qu'effectivement, c'est éminemment politique de céder ou de ne pas céder à ce genre de chantage. Et donc, il vient régulièrement en France pour nous voir, mon fils et moi. À chaque passage de la douane, il est mis sur le côté. Ses bagages et lui-même sont fouillés plus que les autres. Il est interrogé. On lui dit clairement à chacun des passages, que ce soit pour venir ici ou pour repartir, « Si tu vas vivre en France, on va te lâcher, mais tant que tu restes ici, tu vas souffrir. » Mais il est plus fort que ça, donc il passe la frontière. Et puis le bonheur de se retrouver est plus grand que la contrainte de l'interrogatoire. Il devait nous rejoindre fin août 2017. Et une semaine avant, il a été arrêté.
Salah Hamouri a toujours estimé avoir été un prisonnier politique. Depuis sa libération en 2011, il l'affirme en toute occasion. Mais le 3 août dernier, il est retourné en prison. Motif, son appartenance présumée à une organisation interdite. Son épouse française dénonce un acharnement du gouvernement israélien.
Cette fois-ci, il y a eu une mise en détention administrative. Donc c'est une détention sans charge ni jugement. Tout est basé sur un dossier qui est classé secret, donc ni l'accusé, entre guillemets, ni ses avocats ne peuvent accéder à ce dossier. Les autorités françaises, puisqu'il est citoyen français, ne peuvent pas non plus accéder à ce dossier. Il faut savoir qu'il avait été arrêté non seulement une semaine avant de venir nous rencontrer, nous visiter, mais c'était aussi 3 jours avant de prêter serment. Alors à l'époque, notre fils, il était petit, donc je ne lui avais pas expliqué tout ça. J'avais pendant 13 mois fait vivre son papa par des photos, on lui faisait des dessins, voilà. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile, mais Salah avait fait une interview quelques jours avant de se faire arrêter. Et il dit, bien sûr que ce n'est pas ce que j'aurais souhaité pour mes enfants, de vivre loin, loin de moi, loin de leur patrie, d'essayer de construire une relation par téléphone interposé, c'est pas ça que je voulais. Mais je veux qu'ils sachent que leur père, il s'est battu.
Permettez-moi de remercier d'abord toutes les militantes et tous les militants des organisations qui composent le comité de soutien 13 à Salah Hamouri.
On remobilise et la mobilisation grandit au fil des mois, puisque je pense qu'à chaque détention, il est bien clair que c'est un acharnement politique.
Et nous sommes en ligne avec Salah Hamouri. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. D'abord, quel est votre état de santé après 13 mois de détention ?
Bonjour, merci pour vous déjà. Ça va, après 13 mois, malgré la difficulté de la prison, au niveau de la santé, ça va. J'ai tout fait pour garder un bon moral et une bonne santé en prison.
Il est libéré en septembre 2017, sans plus d'explication que pourquoi il avait été en détention. Il le libère, alors c'était une libération comme à chaque fois, sous conditions. Donc il avait une liste de personnes qu'il n'avait pas le droit de rencontrer. Une caution à payer et il n'avait pas le droit de faire une fête pour célébrer sa sortie. Donc une fois libéré, Salah prête serment. Donc il devient officiellement avocat, ça c'était la première chose qu'il a fait. Et puis ensuite, on reprend les allers-retours réguliers.
Aujourd'hui, Salah et Elsa ont encore des obstacles à franchir. C'est seul que Salah Hamouri s'apprête à rentrer chez lui à Jérusalem-Est, laissant ici sa femme et son fils, toujours interdits d'accès en Israël.
Après de nombreux mois de fermeture de la frontière israélienne, Salah vient pour les vacances d'été. Enfin, il veut venir. Il a un billet d'avion. Et il est arrêté au moment où il va faire un test PCR. Il est dans un centre médical et il se fait arrêter. Et donc, ils l'ont gardé une semaine, sans motif, et pour lui faire louper son vol. Te réjouis pas trop d'aller passer des bons moments avec ta famille après quelques mois sans les avoir vus. Nous, on est toujours là. Donc, il est libéré au bout d'une semaine, et puis on achète un nouveau billet d'avion, et il vient nous voir. On passe quelques semaines ensemble, et il rentre en Palestine. Et en septembre 2020, il est convoqué pour un interrogatoire à Jérusalem. Il y va, et là, on lui remet un ordre militaire qui stipule que son titre de résident à Jérusalem est révoqué. Début 2022, après y avoir échappé, Salah a le Covid. Là, il découvre que son assurance maladie a été suspendue. À cette période-là, il n'a plus le droit non plus de passer un seul checkpoint. Donc, il n'avait plus non plus l'autorisation d'aller travailler, puisque toutes les prisons sont situées sur le territoire israélien. Les tribunaux, c'est pareil. Donc, il n'avait plus le droit de travailler. Pas le droit de circuler librement, pas le droit de se soigner, et du coup, il risque l'expulsion vers la France. Sauf que quelques jours avant qu'il ait cette mauvaise nouvelle, je lui avais annoncé une bonne nouvelle, c'est que j'étais enceinte de notre second enfant. Nous, on avait en tête une date à laquelle il fallait absolument qu'il soit en France pour la naissance. Et donc pendant toute la grossesse, on n'avait aucune certitude sur le fait qu'il puisse venir. Et il a obtenu une autorisation 2 jours avant la date du terme. Mais ça a été une grossesse de stress aussi bien pour lui que pour moi. Il imaginait que son second enfant allait naître sans lui. Donc après, il est rentré en Palestine quelques jours après la naissance. Et depuis, donc en mai, c'était en mai 2021 et on ne l'a pas revu depuis. En octobre 2021, l'ONG pour laquelle il travaillait est classée par Israël organisation terroriste, avec 5 autres ONG, qui sont donc toutes les 6, des ONG qui défendent les droits humains en Palestine et qui font un travail remarquable et qui sont reconnus à l'international. Et c'est clairement une démarche pour affaiblir la société civile palestinienne et les défenseurs des droits humains. Le 7 mars 2022, dans la nuit, les soldats israéliens sont venus. Ils ont explosé la porte de l'appartement. Salah s'est réveillé entouré de fusils et de soldats. Donc, il venait pour l'arrêter.
Aujourd'hui, on s'est réunis avec les militants d'Amnesty France pour demander justice pour Salah Hamouri. Salah Hamouri, il est détenu depuis mars 2022 par les autorités israéliennes sans charge ni jugement. Le 5 juin dernier, les autorités israéliennes ont décidé de renouveler sa détention jusqu'en septembre 2022. On doit se battre pour demander sa libération immédiate. On doit aussi se battre pour qu'il ne soit pas expulsé de Jérusalem, sa ville natale. Enfin, on doit se battre pour que les droits de cet homme soient enfin respectés.
Cet arbitraire, il est insupportable et c'est pour ça qu'au fil des années, de plus en plus de militants, d'élus, de partis politiques, d'ONG dénoncent la détention et l'acharnement qui est perpétué contre Salah. Pour nous, c'est fondamental parce que ça permet aussi de toucher des gens qui ne seraient pas touchés par notre discours à nous. C'est-à-dire que moi, je suis la femme de Salah. Quand je vous dis mon mari vit une injustice, mon mari doit être libéré, vous pouvez toujours vous dire que je suis aveuglée par l'amour, voilà. Mais quand il y a des organisations comme Amnesty qui exigent aussi la libération de Salah, ça a un autre poids. Ce sont des organisations qui sont reconnues pour leur travail de défense des droits humains partout dans le monde. Et donc quand elles portent un combat sur une personne, ça crédibilise son combat. Pour nous, c'est fondamental.
Voilà, alors la suite de son histoire, elle est récente puisqu'il y a 15 jours, le 18 décembre, Salah a finalement été expulsé du territoire où il est né et où il a grandi. En fin de matinée, il a atterri sur le tarmac de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Nous étions là pour l'accueillir aux côtés de ses proches, des collectifs de journalistes et de politiques. Le visage grave, marqué par ses 10 mois d'emprisonnement, Salah a déclaré: « Je suis leur cible depuis plus de 20 ans. Ils voulaient me déporter vers la France depuis 2005. J'ai toujours refusé. Ils m'ont contraint à partir, de force. C'est pour faire un exemple, pour montrer aux jeunes générations ce qui attend ceux qui veulent leur résister. La première étape sera de se retrouver. Il y a du temps à rattraper en famille. La voix de Salah ne va pas s'éteindre avec cet exil forcé, a indiqué de son côté son épouse. » Cette expulsion a eu lieu sans autre forme de procès, alors même qu'une audience devant fixer sa date était prévue le 1er janvier. Elle est illégale. En effet, l'expulsion des territoires palestiniens occupés constitue une grave violation de la 4e Convention de Genève et un crime de guerre. Par ailleurs, cette expulsion établit un dangereux précédent. Elle se fonde sur un amendement à la loi qui autorise le ministère israélien de l'Intérieur à expulser les résidents permanents si leur manquement à l'allégeance à l'État d'Israël est reconnu. Cette mesure entre en contradiction avec le droit international. En effet, l'allégeance à la puissance occupante de la part de la population occupée n'est pas requise. Aujourd'hui, nous appelons les autorités israéliennes à revenir sur cette décision en autorisant Salah Hamouri à revenir travailler dans son pays et vivre sur sa terre natale avec sa famille. Pourquoi cet acharnement contre Salah Hamouri ? Parce que les autorités israéliennes tentent de le réduire au silence comme toutes les voix dissidentes qui se prononcent contre la politique discriminatoire menée par les autorités israéliennes. Son histoire s'inscrit donc dans un contexte répressif plus large, un système d'oppression et de domination que les autorités israéliennes ont créé pour étouffer les revendications du peuple palestinien. Ce système a un nom, l'apartheid. Après un long travail de recherche de 4 ans, nous l'avons documenté dans un rapport publié en février 2022. Nous y démontrons notamment comment des lois et des politiques ont été mises en place pour discriminer les Palestiniens et les Palestiniennes sur tous les plans, économiques, politiques, sociaux, culturels. Voilà la situation en Israël. Cet exemple l'illustre bien. On va maintenant revenir un peu sur les 10 jours pour signer que nous avons réalisés à Digne. Comme partout dans le monde, dans la semaine du 10 décembre. Donc nous tenons en tant que groupe dinois à remercier les centaines de personnes du bassin dinois qui se sont mobilisés, comme des milliers d'autres à travers le monde, en faveur des 13 personnes victimes de la violation de leurs droits, alors qu'elles ne faisaient que manifester pacifiquement pour exprimer leur opinion. Grâce notamment à l'antenne jeune du lycée Pierre-Jules de Gênes, qui a fait un travail remarquable, nous avons pu recueillir près de 3000 signatures et de nombreuses cartes de soutien ont été envoyées. On avait installé deux expositions à la médiathèque qui ont été appréciées par de nombreux lecteurs qui ont signé les pétitions, qui ont acheté des albums pour enfants sur les thèmes des droits humains et qui se sont renseignés sur notre mouvement. Alors, il y avait une première exposition de photos de l'agence Magnum en collaboration avec Amnesty International qui retraçait les grandes étapes et les grands combats d'Amnesty. Et puis une autre exposition sur Amnesty elle-même. Et je vais vous lire un poème qui a été écrit par un membre d'Amnesty qui s'appelle Ludovic Chaptal et qui était exposé à la médiathèque. Il s'appelle « Ami, levant un toast ». Parce qu'un anonyme, en toute impunité, a violé l'élégance et massacré la vie d'une enfant de 15 ans en ex-Yougoslavie. Parce que l'injustice a permis d'acquitter un criminel gradé sous des ordres sinistres, ayant droit sans devoir sous l'œil vil de ministre. Parce qu'un chef d'État d'aucune dignité a scellé des barreaux devant des journalistes, devant des innocents, des exclus, des artistes. Parce que la morale, au diable, a condamné un amour trop aimant, une douce caresse, un désir passionnel, un appel de tendresse. Parce que les non-dits masquent la vérité, de la traite d'humains, de l'offre et la demande, des meurtres de Juarez, des enfers de Thaïlande. Parce qu'en un cachot, debout mais menotté, l'honneur respectueux a besoin d'espérance, depuis le pôle sud jusqu'au fond de la France. Pour toutes ces raisons, mon cœur s'est invité, armé simplement de l'encre et de la plume dans les rangs d'Amnesty pour la lutte commune. Amis, levons ensemble un toast à la santé, du bonheur planétaire et de la liberté. Voilà ce poème. Nous allons maintenant écouter une chanson de Lenny Escudero, L'affiche rouge.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semble y vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos fantômes morts pour la France. Et les mornes matins étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en Yerevan, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Voilà. Donc de nos jours encore, des gens sont exécutés pour avoir défendu la liberté, comme au temps de l'affiche rouge. Ils s'appelaient Mohsen Chekari et Majid Reza Ranavar. Ils avaient 23 ans. Comme des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, ils participaient aux manifestations en lien avec le soulèvement populaire en cours en Iran depuis plus de 3 mois. Ils ont été exécutés après des simulacres de procès, l'horreur absolue. Les autorités iraniennes se servent de la peine de mort comme outil de répression politique, dans le but d'instiller la peur parmi la population, d'intimider les manifestants, qui osent encore descendre dans la rue pour demander plus de liberté, et dans le but de mettre fin au soulèvement populaire. Nous vous appelons tous à vous mobiliser pour ces personnes qui risquent, dans les jours à venir, de subir le même sort. Face à un tel niveau d'atrocité, vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander comment agir. La première chose à faire, en parler, ne pas rester silencieux, c'est déjà une façon d'agir. Le niveau de répression est tel en Iran que nous nous devons de porter la voix de la population iranienne. Relayer, interpeller, partager, pour ne pas que, sous nos yeux, les exécutions se poursuivent. Voici 3 actions à faire. Interpeller les autorités iraniennes et la communauté internationale sur Twitter, relayer les informations sur la répression du soulèvement, envoyer un courrier aux autorités iraniennes. Ces 3 actions, vous les retrouvez sur le site amnesty.fr et vous pouvez agir avec nous. Plus on sera nombreux, plus on aura de poids. On va maintenant écouter une chanson, Grim All White, Le jour de clarté. Thank you.
quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté, quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Voilà un appel à vous engager, et vous pouvez nous rejoindre. Donc, nous nous réunissons, le groupe Dinois, le dernier mardi de chaque mois. Donc, en janvier, ce sera le dernier jour de janvier, le mardi 31 janvier, à 17h. Si ça vous intéresse, appelez-moi au 06 81 34 18 83. Voilà, Régis Boulange. Au 06 81 34 18 83, nous accueillons volontiers des personnes qui veulent se renseigner, voir un peu comment cela se passe. Au cours de ces réunions, on va notamment sélectionner les films pour notre festival du mois de mars, festival de cinéma qui s'appelle « Au cinéma pour les droits humains ». On va recommencer des interventions dans les classes primaires sur les droits humains, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le cadre de la Coupe du monde de rugby amateur à Digne en 2023. Donc il y a des classes qui sont partenaires, qui correspondent avec des classes d'autres pays, des pays qui vont venir, dont une équipe va venir sur Digne participer à la Coupe du monde du rugby amateur, en parallèle à la Coupe du Monde des professionnels. Voilà, donc on va intervenir aussi à l'École des Beaux-Arts pour parler de la liberté d'expression et notamment du prisonnier d'opinion que nous avons, qui est un artiste performeur qui s'appelle Manuel Otero Alcantara, qui est cubain et qui se retrouve en prison pour avoir protesté contre un décret de censure, en fait, des artistes, puisque, en vertu de ce décret, toutes les œuvres, avant qu'elles soient faites, doivent avoir l'accord des autorités. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'actualité du groupe Dinois. Si vous voulez donc participer à l'action d'Amnesty, vous pouvez le faire en ligne en allant sur amnesty.fr. notamment pour protester contre ces exécutions en lien avec le soulèvement en Iran, et puis pour bien d'autres cas aussi. Mais vous pouvez faire plus, notamment en rejoignant notre groupe, dont je vous rappelle que notre prochaine réunion, c'est le 31 janvier à 17h et que vous pouvez m'appeler si vous désirez y participer. Voilà, on va terminer en chanson avec un chanteur qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'entend plus beaucoup, Herbert Pagani, chez nous.
Dehors, les rues sont pleines de vitrines. Y a des Noëls qui te fascinent. Les gens achètent et s'imaginent que ça les rend heureux. Nous deux, on est loin d'être millionnaires. On mange de tout, on vit par terre. Mais le bonheur est pensionnaire chez nous depuis toujours. Chez nous, ça sent la soupe et le bébé dormant. Les disques pleurent car on les joue souvent. Nos chiens sont fous mais pas du tout méchants. Chez nous, la porte reste ouverte jour et nuit. Il y a toujours un plat de spaghettis et du café tout chaud pour les. Ici, le capital, c'est la tendresse. On va puiser notre sagesse dans le silence des caresses. Alors, les grands discours, les belles paroles, tous ces slogans qui vous cajolent, le rythme fou des villes folles, ça colle pas chez nous. Chez nous, on règle l'heure au bruit de nos voisins. Et dans les murs, y'a pas un clou qui tient. Mais les belles nuits passées sur un bouquin. Chez nous, le mot bonjour veut dire vraiment bonjour. On se dispute à coups de mots d'amour. On dirait pas qu'on vit dans une tour. Chez nous, ça sent la soupe et le bébé dormant. Les disques plats car on les joue souvent. Nos chiens sont fous mais pas du tout méchants. Chez nous, la porte reste ouverte jour et nuit. Il y a toujours un plat de spaghettis et du café tout chaud pour les amis.